France Culture.
Il y a 80 ans, jour pour jour, les Françaises se rendaient aux urnes pour la toute première fois, le 29 avril 1945, à l'occasion d'élections municipales demeurées dans l'histoire. Malgré tout, la féminisation du pouvoir français, lente, inachevée, progressera seulement des décennies plus tard, en très large partie du fait des lois sur la parité. Alors, plusieurs questions ce soir. Que change, que permet la féminisation du pouvoir? Les femmes l'exercent-elles différemment? Et quel chemin reste-t-il à parcourir vers l'horizon de l'égalité réelle? Pour en discuter, pour en débattre aussi, deux invités ce soir. Cécile Duflo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale d'Oxfam France, vous êtes ancienne députée, ancienne ministre. Face à vous, Catherine Achin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des questions de genre en politique. Merci à vous deux d'être présentes ce soir dans Questions du soir.
Les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices.
J'étais jeune à cette époque-là.
Ah oui, je m'en souviens. La première fois, la femme pouvait parler. Jusqu'à présent, la femme, elle n'existait pas, elle était bonne pour faire le ménage.
Ça m'a marquée et pour moi, c'est toujours un événement. Je me revois encore ce jour-là, rentrée et les gens qui regardaient les femmes comme si on était... Eh bien, maintenant, je suis bien contente d'avoir été votée, oui.
Je suis indépendante. Mon mari avait ses idées, moi j'avais les miennes.
On est aussi intelligent que les hommes et aussi capable que des hommes de savoir pour qui on vote. Donc la femme, maintenant, est l'égale de l'homme, du fait qu'elle vote.
Pour moi, une personne qui ne va pas voter, ce n'est pas une vraie Française.
Elles ne vont pas voter, elles n'ont qu'à se taire.
Marcel Abadi a la vie très très arrêtée, elle a 105 ans aujourd'hui, elle est interrogée par BFM TV et se souvient justement de ce 29 avril 1945. Cécile Duflo, c'est 80 ans, qu'est-ce que cela représente pour vous comme femme, comme ancienne femme politique notamment?
Alors moi, ça représente quelque chose de très fort comme citoyenne en fait. Et ma grand-mère, qui fait partie de cette génération de femmes qui ont voté pour la première fois il y a 80 ans, elle est plus là maintenant, mais elle était extrêmement insistante. Elle disait faut aller voter hein, parce que c'était suffisamment compliqué pour qu'on puisse voter. Et donc c'est une sorte de devoir, même quand il y a des élections où franchement j'hésite, je suis pas très motivée. Ça me tient comme une discipline de savoir tous les efforts, toute la mobilisation, tous les sacrifices même que certaines femmes ont fait pour qu'on ait le droit de vote. Donc c'est une sorte de devoir moral à leur égard et de gratitude.
Catherine Achin, en tant que chercheuse, mais en tant que citoyenne aussi peut-être, vous allez nous le dire.
Oui, l'aboutissement de décennies et décennies de militantisme, d'engagement de femmes incroyables depuis la Révolution française, toujours au cœur des révolutions, au cœur des mouvements et jamais toujours mise de côté au moment où on distribue le suffrage. Et donc, ce que je trouve marquant, c'est ce siècle d'écart qui fait de la France quand même une exception. Donc, 1848, tous les hommes votent et sont éligibles sans condition de revenu. Et 1945 pour les femmes, donc ça marque, et on va en parler ensuite, hein, mais les institutions et la politique se sont forgées, sont apprises entre hommes, et ça, voilà, les femmes étaient autour, elles pouvaient discuter avec leur mari qui votait, certes, mais elles ne l'exerçaient pas directement. Donc, une conquête importante, en tant qu'électrice, donc... à même d'avoir une opinion personnelle, et puis en tant qu'élue aussi, puisque à la Libération, elles ont été assez nombreuses, beaucoup de résistantes à entrer dans les différents conseils, donc au niveau municipal et puis ensuite à l'Assemblée constituante.
On va interroger justement dans cette émission, dans ce dialogue entre vous deux, les effets de la féminisation lente hein, du pouvoir. Vous faites paraître, Cécile Duflo, Oxfam fait paraître plus exactement un rapport intitulé « Le pouvoir, virgule, non masculin », ça paraît aujourd'hui. Et je le cite, pour cette première édition de l'index, Oxfam France a calculé que le taux de féminisation du pouvoir en France était seulement de 28%. Autrement dit, les femmes représentent moins d'un tiers des plus hautes sphères du pouvoir en France, encore très loin de la parité et l'égal accès aux postes de pouvoir. Fin de citation. Comment décortiquer ce chiffre-là, celui de 28%? Comment vous l'avez établi?
On l'a établi en regardant les responsabilités qui existent, à la fois celles qu'on regarde très facilement, c'est-à-dire les parlementaires, les députés, les membres du gouvernement, mais en décortiquant aussi au sein du gouvernement les différences de postes, et on pourrait aller plus loin, on pourrait regarder les budgets dont sont en charge respectivement les hommes et les femmes, mais aussi au niveau des collectivités locales, les postes d'élus, mais aussi les postes qui sont de fait des postes très stratégiques, que ceux des directions de cabinet et des directions générales des services. Et c'est donc en regardant ces différentes sphères et en regardant qui occupe ces fonctions qu'on a essayé d'additionner pour avoir un portrait assez clair de la féminisation du pouvoir en France. Et notre objectif, c'est qu'on le publie chaque année et qu'on l'actualise chaque année, parce qu'il y a une phrase qu'on aime beaucoup chez Oxfam qui dit que pour que les femmes comptent, il faut les compter. Et que tant qu'on ne regarde pas cette réalité, elle n'existe pas. On l'a fait sur les victimes des catastrophes naturelles et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de femmes qui étaient victimes des catastrophes naturelles que les hommes. Mais tant qu'on ne l'avait pas compté, bah, personne ne le pensait. Et sur la question du pouvoir, notamment en allant jusqu'à ses responsabilités de directeur de cabinet, enfin de direction de cabinet ou direction générale des services, bah on a une vraie photographie de qui décide, qui est au poste de pouvoir. Et donc on espère que ça va contribuer à faire bouger les choses, parce qu'il y a des propositions qui permettent de faire changer les choses.
Vous êtes d'accord avec cette formule chère justement à Oxfam, Catherine Hachin, pour que les femmes comptent, il faut les compter. Ça peut percuter au début comme formule.
Oui, non, mais je pense que c'est très juste, et parce que justement si on compte les femmes, en 1958 il n'y en avait que 8 à l'Assemblée nationale, en 1993 elles étaient une trentaine, c'est-à-dire représentaient à peu près 6% des députés, c'est-à-dire exactement la même part qu'en 1946.
6% en 1993.
Donc c'est pour ça que c'est la parité qui a permis de forcer l'entrée des institutions. Elle n'y serait pas entrée sans cela. C'est-à-dire qu'il y avait des mécanismes de discrimination et d'exclusion, et si on ne les compte pas et on ne les met pas en évidence, on ne les contourne pas non plus.
Ce que pointe votre rapport, d'abord Cécile Duflot, c'est que la progression n'est pas stable, elle n'est pas pérenne, elle n'est pas non plus acquise. Hein. Le taux de femmes de députés a régressé d'ailleurs aux dernières élections de juin 2024.
Oui, et quand on dit ça, on se dit non, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'un certain nombre de partis payent des amendes très élevées, parce que la loi sur la parité, elle a institué une règle qui est l'obligation de présenter autant de candidats hommes que femmes. Même pas d'en élire, hein, de présenter. Et donc même ça, pour un certain nombre de partis, bah c'est pas une motivation suffisante pour ne pas payer d'amende. Donc on voit bien qu'il faut mettre en place d'autres dispositifs. Et pour faire écho à ce que vous venez de dire, effectivement cette question des quotas, donc le débat au moment des lois sur la parité, était très brutal. Et à l'époque, la jeune femme que j'étais était pas très favorable. Je le dis parce que
pourquoi
probablement, ben je me disais mais moi je veux pouvoir occuper un poste parce que j'ai les compétences pour, pas parce que je suis une femme. Et en plus, je trouvais que ça avait été très pervers, en fait, parce que ça avait été intériorisé, en tout cas, je l'avais intériorisé, alors qu'en fait, c'est totalement vrai, s'il n'y a pas ces règles-là, eh bien, il n'y a pas de femmes. Tout simplement parce que je pense que l'histoire a complètement imbriqué le fonctionnement politique. Et les femmes se mettent de côté, elles se poussent moins, les hommes s'estiment spontanément plus légitimes. Il y a plein de mécanismes qui ne sont pas contournables. Donc on peut ne pas aimer les quotas, et ça peut, on peut se poser la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le seul outil qui permet réellement de faire bouger les choses. On parle du gouvernement, là où ça a fortement agressé, il y a eu les postes régaliens au sein du gouvernement occupés de façon paritaire.
Les postes régaliens, on rappelle hein, que, grosso modo, c'est la défense, l'intérieur, la justice, le ministère des finances, et j'en oublie peut-être un dernier.
Non, je pense que vous êtes bon. Et ce que ça veut dire, c'est que ce sont les compétences qui sont des compétences directes de l'État. C'est-à-dire là où le ministre exerce pleinement son pouvoir. La ministre de la Culture, par exemple, il y a des missions d'État, mais il y a aussi plein de politiques culturelles qui sont menées au niveau des collectivités locales.
La défense, le vrai pouvoir, pour dire les choses.
Ben c'est là où, en tout cas, c'est le cœur du pouvoir. Et c'est l'endroit où on peut décider, notamment au sein du Conseil de défense, les décisions qui engagent la place de la France et son engagement dans des opérations militaires, par exemple. Ben là, c'est des cercles 100% masculins. Le chef d'État-major des armées aussi, c'est un homme. Le directeur de cabinet du président de la République, le secrétaire général de l'Élysée. Enfin, et là, on voit bien en fait qu'on a encore des cercles qui peuvent être 100% masculins. C'est-à-dire des décisions qui sont prises dans notre pays exclusivement par des hommes. Et donc, on viendra après sur qu'est-ce que ça signifie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne met pas en place un certain nombre de politiques pour faire échec à ça, bah, on est vulnérable au recul parce que en 2007, il y avait autant de femmes que d'hommes au poste régalien. Et aujourd'hui, il y en a aucune.
Je reviens un instant, Catherine Hachin, sur ces lois sur la parité. Elles s'étendent, grosso modo, il y en a plusieurs, elles s'étendent de l'an 2000 à 2023, hein, indépendamment des circonscriptions, des élections, etc., etc. Qu'est-ce qu'on leur doit, concrètement, à ces lois? Est-ce qu'on leur doit notamment cette progression de la féminisation en politique? Est-ce qu'on leur doit tout dans ce domaine?
Oui, d'un point de vue quantitatif, c'est évident. C'est les femmes étaient un peu mieux représentées dans les assemblées locales, régionales et déjà un peu au Parlement européen. Mais il y a eu une accélération, une confirmation, et surtout ça a ouvert les portes d'assemblées qui étaient quasiment exclusivement masculines. Je donne l'exemple de la parité qui s'applique dans les conseils départementaux. En 2015, on est passé avec un scrutin binominal, donc du jour au lendemain, les assemblées sont devenues strictement paritaires. Or, dans ces assemblées départementales, c'était vraiment des bastions de la construction des carrières politiques avec le vieux cursus honorum, le maire, conseiller général, voilà, qui construisait tranquillement sur plusieurs décennies sa carrière politique. On a fait entrer une moitié de femmes dans ces assemblées. On est passé de 13% à 50%. Voilà, donc évidemment, on doit la féminisation de la vie politique à la parité. Elle est désormais... Donc on a des assemblées strictement paritaires dans les régions, dans les conseils municipaux des villes de plus de 1000 habitants, dans la délégation française au Parlement européen. Et puis donc on a vu encore des limites là où dès qu'il y a un petit jeu avec la loi possible, donc pour les élections législatives et pour le Sénat et au gouvernement, où la loi sur la parité ne dit rien de la composition du gouvernement.
Et on voit bien d'ailleurs dans ces communes de moins de 1000 habitants à quel point on est très très loin, encore plus loin sur ces statistiques liées à la parité. Je reviens, Catherine Achin, sur ce que disait Cécile Duflot sur ces fameuses amendes payées par les partis politiques qui ne respectent pas la parité. Pour qu'on mesure les choses, à quel point s'élèvent-elles ?
Alors, ça a été sans cesse aggravé. Donc là, depuis 2014, c'est 150% de l'écart. Donc lorsque vous avez un parti politique qui choisit de présenter 60% d'hommes et 40% de femmes, ce qui est assez commun dans les partis de droite, notamment là, lors des dernières élections, dès qu'il y a un petit contexte de crise, hein, on régresse sur son habitus et on présente les hommes qui nous entourent tout de suite. C'était vraiment flagrant en 2024. Et donc là, on a un écart de 20 points entre les candidats des deux sexes. La pénalité sur la première moitié du financement public des partis va être de 30%, ce qui est quand même pas négligeable. Donc c'est pour certains partis politiques. Donc aux dernières élections, UDI, LR et les amis de Ciotti ont eu des pénalités très très importantes.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Mathilde Viau. Elle s'exprimait dans le podcast « Les couilles sur la table ».
L'Assemblée nationale s'est encore perçue, et la politique, est encore perçue comme une arène dans laquelle descendent des gladiateurs qui sont là pour se porter des coups et dont l'idée, en fait, ça va être de voir la violence qui se déploie. Olivier Faure était interrogé la semaine dernière. Les questions qu'on lui posait, c'était est-ce que vous vous sentez humilié par Jean-Luc Mélenchon ? Il y a une mise en scène perpétuelle de ces combats de coqs, en fait, dont chacun doit venir pouvoir faire la démonstration qu'il est plus fort que l'autre. Ça a une conséquence hyper importante sur ensuite les comportements et les recrutements du personnel politique. Parce que le fait que l'objectif ce soit de dominer l'autre pour pouvoir faire valoir son opinion, ça fait qu'on recrute le personnel politique en ayant en tête qu'il faut trouver des personnes qui soient agressives et dans la domination. C'est un univers hyper bourgeois, hyper masculin, hyper blanc. Toutes les personnes qui s'éloignent de ces catégories-là sont finalement méprisées, discréditées, et qu'on les renvoie au fait qu'elles n'appartiennent pas réellement à ce milieu-là.
Ça correspond, Cécile Duflot, à ce que vous avez vu, vécu, senti comme députée, comme ministre ?
Bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est comme le pouvoir a été exercé longtemps par les hommes. Et en France, avec cet aspect très particulier, que même les rois ne pouvaient pas être des femmes. On avait cette tradition qui est que le pouvoir suprême ne pouvait être exercé que par des hommes. Donc on a associé au pouvoir les caractéristiques de la virilité, voire de la survirilité. La force physique, la grosse voix, l'aspect imposant. Et donc on a considérer que sont capables ceux qui peuvent jouer de ces critères-là, exactement comme vient de le dire Mathilde Viau. Du coup, on a aussi poussé certaines femmes à montrer qu'elles pouvaient jouer sur ce terrain-là. Et donc, ce qui a aussi conduit un certain nombre de femmes à se dire « Non, mais moi, je ne peux pas user de ces codes-là. » Et du coup, à se mettre en retrait. Mais c'est tout à fait vrai que je pense qu'en plus, on a rendu le pouvoir prisonnier de ce qu'on pourrait appeler une forme de virilisme toxique. Le président Emmanuel Macron, c'est très impressionnant de voir à quel point, plein de fois, il s'est senti obligé de surjouer l'homme viril. Il s'est, pendant les premiers temps de son premier mandat, il s'est habillé en commando de marine et il s'est fait litreiller sur un sous-marin. Il s'est habillé en joueur de foot, il s'est habillé en pompier. C'était presque drôle de voir à quel point il voulait mettre en scène le fait qu'il était un homme, un vrai, et que donc il était président. Alors même que l'exercice du pouvoir dans une démocratie, de garantir la paix civile, de pouvoir emmener l'ensemble de la population de façon démocratique, ça nécessiterait plutôt des qualités de compromis, de diplomatie, de capacité à entraîner, et pas de capacité à imposer, voire à blesser. Et donc, je pense qu'on est dans cette espèce de tension encore aujourd'hui, avec des conséquences aussi sur les individus. Parce que il se trouve que quand on regarde la santé des parlementaires aujourd'hui, et des parlementaires hommes ou d'avant...
Et des attachés parlementaires.
Oui, mais les parlementaires eux-mêmes, hein, ces hommes durs, tatoués, une grande partie d'entre eux étaient alcooliques. C'est ça la vérité. C'est que c'était vraiment la maladie professionnelle des politiques. C'est-à-dire on imposait quelque chose de l'ordre de la violence permanente, en fait, et de l'obligation d'être en représentation de sa propre force. Et c'est un vrai piège. Et c'est pour ça que faire féminiser la politique, c'est aussi... Outre que c'est juste et normal, puisque les femmes représentent la moitié de l'humanité, je pense que ça, c'est utile à tout le monde, et même, j'allais dire, y compris aux hommes politiques.
Mais est-ce que cette violence que vous décrivez, Cécile Duflot, est-ce qu'elle est le produit des hommes? Parce que l'on pourrait se dire, après tout, c'est le produit d'un système politique, de la politique en général, et pas simplement des hommes qui l'organisent. Le monde politique est violent, peut-être, c'est une supposition que je vous soumets, par essence.
Est-ce que le monde politique, c'est le pouvoir, c'est la conquête ou l'exercice du pouvoir? Donc, est-ce que la conquête du pouvoir est violente par essence? Je ne suis pas certaine. Il y a des images, en tout cas, moi j'ai été beaucoup inspirée par le fait que des éthologues travaillent sur des collectifs d'animaux. D'animaux qui sont aussi intelligents que nous, aussi sociables que nous, aussi attachés aux liens sociaux. Et les cachalots, par exemple... Bah, ils sont très très intelligents, ils aiment leurs semblables, ils élèvent leurs enfants longtemps. Ils se tapent pas dessus, ils essayent pas de délimiter à l'intérieur de l'océan quel bout appartient à qui. Et on pourrait multiplier les exemples. Quand des grues partent en migration, bah, y a une grue qui fend l'air, et puis ensuite, à un moment, elle va derrière pour se reposer, c'est une autre grue qui fend l'air. Il y a plein de systèmes d'organisation qui n'impliquent pas... un pouvoir qui soit un pouvoir brutal. Je pense qu'il y a une construction qui s'est faite et qui est très liée justement au fait que on veut mettre en scène ces critères de virilité. Donc on attire aussi des gens qui se sentent à l'aise avec ça pour plein de raisons. Donc ça pourrait nous emmener plus loin, mais je suis convaincue qu'il y a la possibilité de délier exercice du pouvoir et des responsabilités de la violence. Je le dis parce que je viens d'une famille politique, les écologistes, qui a pas été exempte de ça, mais qui a aussi démontré qu'on pouvait trouver des biais et des manières de dialoguer et d'aboutir à des prises de décision différentes.
Catherine Achin, que montrent les travaux en sciences sociales, les travaux en sociologie politique dans ce domaine? Est-ce que les femmes exercent différemment le pouvoir en comparaison des hommes?
Non, les travaux montrent que fondamentalement non, alors même qu'elles avaient été invitées un peu sur cet argument différentialiste, hein, les femmes allaient rénover la politique, on les invitait pour la réenchanter au moment où on mesurait un écart croissant entre les gouvernants et les gouvernés. Faire entrer les femmes en politique, c'était se justifier par faire entrer plus de fraîcheur, plus de concrétude et moins d'ambition, moins de violence, etc. En réalité, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir des institutions et de leur fonctionnement qui est extrêmement normalisant. Il est compliqué de bouleverser ce qui est sédimenté dans les institutions en termes de comportement, comment faire passer une loi, comment faire passer son texte, comment obtenir un rapport, comment avoir le meilleur bureau, comment se faire entendre, comment avoir un rendez-vous directement avec le ministre. La manière dont ça a été sédimenté, on ne peut pas le changer individuellement.
Vous voulez dire qu'elles sont différentes, mais que le champ politique normalise leur comportement?
Exactement. Alors, il y a des petites nuances qui ont été montrées, par exemple. des travaux sur le Conseil régional d'Île-de-France qui a mesuré la manière dont les femmes préparaient leur travail en commission, et en montrant qu'elles investissaient davantage les dossiers que les hommes, qu'elles y passaient plus de temps dans la semaine que les hommes en comparant les emplois du temps. Et puis en séance, elles avaient mesuré les temps de parole et surtout le bruit et le silence comparatif, en montrant que lorsque les femmes prenaient la parole, les hommes bavardaient davantage et montaient la voix. Et c'est pour cela qu'on les entendait moins, tandis que les femmes étaient davantage préparées à accorder de l'attention à l'orateur lorsqu'il est un homme. Et cela, en fait, ça produit aussi ça met davantage en valeur un discours lorsqu'il est tenu par un homme que lorsqu'il est tenu par une femme.
Cécile Duflo, est-ce que les lois sur la parité sont justes au sens où nommer des femmes parce qu'elles représentent un tout petit peu plus que 50% de la société, c'est juste? On pourrait se dire que c'est la même chose s'agissant des classes sociales, s'agissant d'autres critères du corps social. On pourrait se dire, au fond, il faudrait une loi similaire pour les ouvriers, les employés et pour d'autres corps professionnels.
Alors,
pourquoi les femmes spécifiquement?
Bah parce que il y a quand même une réalité naissance, même si cette réalité de naissance ne s'impose pas forcément à tous, qui est que les femmes représentent la moitié. Et il y a quelques exceptions, bien sûr, on n'est pas assigné à un genre à vie, mais dans l'immense majorité des cas, quand on est femme, on continue d'être une femme. Et c'est la même chose pour les hommes. Quand vous êtes ouvrier, vous pouvez évoluer. Quand vous êtes né dans une famille moins riche, vous pouvez aussi... Les évolutions sont différentes. La différence du genre, c'est une différence très importante parce qu'elle est aussi socialement construite. Et pourquoi les femmes réagissent différemment? Moi, je suis passionnée par cette histoire de est-ce que quand on a des institutions mixtes, ça change les choses? Intuitivement, pour l'avoir vécu, franchement, c'est pas du tout la même chose. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se crée dans une pièce quand il y a que des hommes. Et pourquoi, quand vous changez les proportions, c'est différent.
Qu'est-ce que vous observez de différent?
Moi, j'ai toujours constaté que les moments où vous n'aviez quelques organisations que ce soit d'ailleurs, professionnelles, politiques, associatives, qui étaient monogenrées, c'était moins... confortable comme lieu de travail. Je ne sais pas ce que produit la mixité, mais ça produit quelque chose. Alors, c'est totalement empirique, mais peut-être ça pourrait se mesurer hein, sur le climat des réunions, sur le fait que je pense que la présence des femmes, ça évite le côté combat de coq qui peut être plus évident et plus simple quand il y a que des hommes. Et tout ça, ça revient quand même à une forme de socialisation dans l'enfance. On voit bien hein, toutes les études maintenant qui montrent à quel point les réactions des petites filles et des petits garçons sont totalement similaires quand ils sont très petits et ensuite évoluent dans la manière de se taire, dans la manière d'être poli, dans la manière dans le temps de parole, y compris à l'école, dans le fait d'oser lever la main. Enfin voilà. Et parce que, y compris les femmes, y compris les femmes féministes qui essayent d'élever leurs enfants de manière égalitaire, elles sont imbibées par des siècles et des siècles d'a priori et de constructions qui font qu'on se positionne pas différemment au sein du corps social. Et donc, faire échec à ça, ça nécessite d'y travailler dès l'enfance, mais ça nécessite aussi de créer les cadres pour que ce soit possible.
Mais je reviens quand même un instant, Catherine Achin, sur cette variable des classes sociales quand on examine quelles sont les femmes qui sont élues députées, par exemple, à l'Assemblée nationale. Leur classe sociale est relativement homogène, il y a quand même une homogamie du milieu. Est-ce que là aussi, pour créer de la diversité, pour que l'Assemblée nationale, la représentation nationale même, représente justement le corps social et la nation dans son ensemble, il n'aurait pas fallu marier, associer d'autres variables et notamment la classe?
Tout à fait. La féminisation des assemblées politiques n'a pas modifié la très forte sélection sociale des élus et raciale, puisque donc les assemblées continuent à être très majoritairement blanches, masculines, bourgeoises. Alors, elles sont devenues davantage mixtes. C'est vrai, quand on regarde les photos des conseils régionaux, etc., il y a de la couleur, il y a des femmes, voilà. Mais elles continuent à être très sélectionnées. On a une très forte sous-représentation des classes populaires, des classes intermédiaires en politique. Donc, Donc, moi, je trouve que si la parité, elle peut servir aussi à quelque chose, c'est justement à ouvrir cette boîte et à s'interroger sur qui fait les lois, qui gouverne aujourd'hui notre pays, quelles sont les expériences qui peuvent être apportées dans le débat démocratique et qui permettent de tenir compte et d'améliorer la vie quotidienne de toutes et tous, parce que toutes les femmes ne sont pas identiques. Elles sont prises de la même manière dans le système de domination masculine, mais elles sont aussi différentes en fonction de leur âge, de leur origine sociale, de leur couleur de peau, etc.
Du point de vue des politiques publiques, Catherine Achain, du point de vue des politiques que ces femmes élues dessinent, est-ce qu'elles sont plus féministes que les hommes ? Est-ce qu'elles s'emparent de sujets dits plus féministes ? Est-ce qu'elles portent des mesures plus régulières en faveur des femmes ? Ou est-ce que c'est difficile, là aussi, à mesurer ? On vous posera évidemment la question, Cécile Duflot.
Oui. Alors, les travaux qui essayent de mesurer l'impact de la féminisation, par exemple, du Parlement sur la production des lois, sont assez nuancés. Justement, ils vont montrer que lorsque la part des femmes est importante, on va avoir davantage de lois sur la famille, sur les enfants, sur la prise en considération de la vie quotidienne. On montre davantage de lois. Mais le facteur qui reste le plus déterminant, c'est l'appartenance partisane. Giorgia Meloni est une femme, elle dirige l'Italie, je ne pense pas qu'elle fasse progresser les droits des femmes à l'heure actuelle. Donc voilà. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que certaines femmes élues deviennent féministes du fait de se confronter au sexisme et prennent conscience en fait que les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes et peuvent d'un seul coup essayer de mettre en place des textes qui favorisent l'égalité.
Cécile Duflot, qu'est-ce que vous avez observé dans ce domaine et constaté ?
Alors, c'est pas parce qu'on est femme qu'on est féministe, et même dans certains endroits, il y a des femmes qui ont une forme d'intérêt à se revendiquer non féministes, parce que dans le corps social dans lequel elles évoluent, dans le parti politique, en fait, ce serait un handicap tel que pour être acceptée, il faut en passer par le fait de dire je suis comme vous en fait, et moi je veux surtout pas. Il y a des exemples d'anciennes femmes politiques qui étaient très très dures en disant moi je ne veux pas de ces lois sur la parité, je suis là parce que c'est moi, alors même que quand on regardait leur cursus et leur parcours, il faut savoir que les premières femmes politiques, je fais exception avec les résistantes, parce que c'est ça l'histoire du droit de vote des femmes, c'est quand même juste un petit mot, parce que moi j'adore cette histoire, c'est parce qu'elles ont été résistantes et que tout le monde se dit là on peut quand même pas les empêcher d'avoir des postes d'élus, vu ce qu'elles ont fait dans la résistance. Et c'est un amendement au moment du conseil provisoire qui intègre les deux mots électrice et devant éligible. Le texte initial, c'était les femmes sont éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Et il y a un amendement de Monsieur Grenier qui dit électrice et qui fait devenir les femmes sont électrices et éligibles. C'est donc par un amendement que le droit de vote des femmes a été intégré. Et les débats de l'époque sont fous parce qu'on dit oui, mais en fait, elles vont pouvoir voter alors que les hommes seront pas encore rentrés des camps de prisonniers pour ceux qui sont prisonniers de guerre. Et on rassure un homme qui est favorable au droit de vote des femmes, dit « Vous inquiétez pas, les femmes qui vont voter, dont les hommes sont prisonniers, vont bien évidemment voter comme aurait voté leur mari. » Donc un argument en faveur du droit de vote des femmes, c'est de dire qu'elles allaient voter comme leur mari. Donc on vient quand même de tout ça. Et il faut être conscient que, y compris sur les femmes, pèse cette idée que il faut pouvoir travailler dans d'autres champs. Mais nous, on a fait l'analyse qui montre quels sont les ministères occupés par les femmes partout dans le monde. Et au premier rang de ces ministères, c'est la question des droits des femmes. Parce que quand même, parmi les féministes et parmi les femmes politiques, il y a de très grandes féministes. Parce que oui, c'est elles qui se sont prises avec une violence considérable. Pas seulement le sexisme, les agressions aussi. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont dû serrer les dents et pour qui c'était vraiment très, très, très compliqué.
J'aimerais vous faire entendre une archive de 1992. On va entendre deux voix que vous connaissez toutes et tous. La première, Ségolène Royal. La deuxième, François Hollande. L'un et l'autre parlent de la maternité de la première.
J'ai hésité, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est en même temps une vie privée donc auquel on a droit, mais en même temps c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je le fais aussi pour la cause des femmes, parce que je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est précisément à l'heure où les femmes accèdent à des responsabilités importantes, de pouvoir concilier à la fois leur vie maternelle, affective, familiale et professionnelle.
L'arrivée d'un nouveau-né ne devrait pas poser de problème à cette responsable politique de 38 ans et déjà mère de 3 enfants.
On est plutôt pour les grandes familles, oui. Ségolène, elle a une famille de 8 enfants, donc elle n'est pas encore atteint l'objectif. Et moi, j'ai déjà doublé l'objectif parce que je suis une famille de 2 enfants. Alors voilà, peut-être qu'on a atteint presque l'équilibre maintenant.
Qu'est-ce que vous inspire, Catherine Achin, cette archive? Dans le fond, il y a un paradoxe, la volonté de revenir rapidement au travail pour montrer, dans le fond, qu'on a les compétences, qu'on sait faire, qu'on fait comme de la politique, comme les hommes. Et dans le même temps, c'est pénalisant pour beaucoup de femmes qui souhaitent s'engager.
Exactement. Et du coup, on se rend compte que le temps a passé depuis 1992. C'est-à-dire que ce qui est...
Les voix ont changé déjà.
Les voix ont changé. Mais ce qui est novateur en 1992, c'est de médiatiser pour la première fois l'accouchement d'une ministre à la maternité et en disant je le fais pour toutes les femmes et pour montrer qu'on peut avoir des carrières tout en fondant des grandes familles. Très bien. En 2024, on a la maire d'une grande ville de Poitiers, élue en 2020 à 30 ans, qui dit « je vais avoir un enfant et je veux prendre mon congé maternité comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire avoir un congé maternité de 3 mois ». Et on lui répond « en fait, ça va être possible, mais en ayant une indemnité inférieure à celle des autres femmes. Et surtout, sa grande difficulté, c'est qu'elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas être remplacée par ses premiers adjoints qui n'obtiennent pas leur mise à disposition de la mairie de la part de leur principal employeur.
Pourquoi une indemnité inférieure? Pourquoi elle n'a pas les mêmes droits que les autres travailleurs parce qu'elle est élue?
La partie indemnité n'est pas considérée comme un revenu d'une profession principale. Il n'ouvre pas les droits et la même indemnisation de 100% que celle d'un congé maternité. Donc là, depuis, des propositions de loi ont été déposées pour justement mettre fin à cette anomalie, aussi bien pour les députés que pour les élus locaux. C'est en cours de discussion, donc avec deux enjeux. Le fait de pouvoir être indemnisé sans perte de revenus et ensuite de pouvoir être remplacé. Est-ce que de jeunes parents peuvent être en responsabilité tout en se disant qu'ils vont être disponibles au moment de la naissance de leur enfant sans laisser leur mairie sans tête?
Cécile Duflot, quel regard vous portez sur cette mise en scène orchestrée par François Hollande et Ségolène Royal en 1992?
Alors, je ne juge pas pour 1992. Moi, personnellement, je suis extrêmement rétive au fait qu'on puisse mettre ses enfants en lumière quand on est responsable politique. C'est déjà une vie compliquée pour les enfants. Donc, s'ils apparaissent comme plus ou moins un prétexte, je trouve ça très, très compliqué. Mais c'est un avis personnel et moi, je n'ai jamais montré mes enfants. Je voudrais dire que c'était une exception d'avoir 4 enfants. Les femmes politiques de la génération de Ségolène Royal, elles n'ont pas d'enfants ou un enfant. C'était une exception et en revanche, ce qui est bien, c'est qu'elle mettait quand même sur le devant de la scène, elle l'a fait sur beaucoup de sujets, Ségolène Royal, faut lui reconnaître ça, cette question de la vie des femmes, de ce que ça signifiait être mère quand on est responsable politique. Et c'est l'occasion quand même de dire un petit mot, franchement, parmi les hommes grands responsables politiques, François Hollande fait partie des moins sexistes, voire des presque pas sexistes, que j'ai connu, et c'est pour sa génération une exception. Et peut-être que c'est lié au fait que justement il partageait pendant longtemps la vie de Ségolène Royal, mais ça dit quelque chose sur le fait qu'en revanche tout ça n'a plus été tellement possible. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres femmes politiques. Je crois pas qu'il y ait eu d'autres femmes politiques exposées qui aient eu 4 enfants, alors que j'ai 4 enfants. Mais je pense que je suis sortie.
On aurait pu analyser ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été très bien dit par Catherine Achin, c'est que le système n'est pas du tout prévu pour. Ça n'existe pas, en fait. Vu que c'était que des hommes, les hommes, par construction, ça tombe pas enceinte. Donc, c'est pas un problème, mais c'est pas un sujet.
Comment est-ce qu'on fait, Cécile Duflot, pour que les choses continuent d'avancer, continuent de progresser? Dans le rapport que vous avez coécrit avec Oxfam, vous proposez notamment que les pénalités, leur montant, soient multipliés par 5. C'est cela qu'il faut faire, c'est augmenter les montants, augmenter le niveau des amendes, ça peut changer les choses?
Pour qu'à un moment, ça devienne juste pas possible de faire autrement. Et que le coût soit trop élevé. Ce qu'on propose, c'est les recommandations du Haut Conseil à l'égalité. C'est pas des recommandations d'Oxfam France, c'est des représentations qu'on fait nôtres parce que le travail a été bien fait. Mais il y a des choses sur l'éducation, je parlais des enfants et le fait de parler de ces sujets très tôt, avec les petites filles notamment, sur le fait de changer les règles électorales aussi. Hein, on voit bien la différence entre l'élection des conseillers généraux, les anciens conseillers départementaux, et aujourd'hui, c'est que c'était une blague que j'avais faite et que j'avais même pas fait exprès d'ailleurs, en disant quel est le féminin de conseiller départemental, c'est suppléante. Parce qu'ils disaient, oui, il y a des femmes, elles étaient toutes suppléantes. Et une fois qu'on a changé les règles, on a complètement changé le paysage des conseils départementaux. Donc, les règles électorales, et notamment sur l'élection de l'Assemblée nationale, devraient pouvoir évoluer. On voit bien qu'avec
Vous parlez notamment de la proportionnelle, par exemple, aux élections législatives, ça pourrait favoriser les femmes.
Exactement, par exemple, la proportionnelle, mais on peut aussi imaginer des dimensions correctives, c'est-à-dire que si vous avez une proportionnelle, vous élisez tant d'hommes, et puis à un moment, c'est une femme qui devient élue à la place d'un homme on veut rétablir la parité. La seule chose, pour être très honnête, que je trouve problématique dans ce système, pour l'avoir vécu chez les écologistes qui ont instauré la parité à tous les niveaux de responsabilité dès quasiment leur création, c'est que du coup, vous avez le corps électoral des hommes et le corps électoral des femmes, et les femmes sont concurrentes entre elles, quand les hommes sont concurrents entre eux. Et ça, je sais pas comment on fait. Donc, rien ne va être très satisfaisant. Ce que j'espère, d'ailleurs, ça s'est passé, je pense, pour une part chez les écologistes, c'est quand vous avez des règles comme ça pendant longtemps, ensuite, ça devient naturel. Et il y a plus, voire moins besoin de... pas du tout besoin de ces règles-là. C'est un mal pour un bien. Voilà, les règles qui sont des règles strictes, c'est un mal pour un bien.
Votre point de vue, Catherine Achin, est-ce que, dans le fond, la féminisation est un argument supplémentaire en faveur de la proportionnelle, notamment pour les élections législatives? Parce qu'on pourrait dire, après tout, comme on va faire des listes, eh bien, il faut qu'une personne sur deux soit une femme dans cette liste.
Je pense que si l'on vient vers le scrutin proportionnel, il sera difficile de le faire passer sans qu'il soit
associé
à la parité, comme c'est le cas dans toutes les autres assemblées. Ou alors, il faudra assumer le fait que la parité, c'est uniquement pour les assemblées du champ périphérique, et que pour le champ central, on va mettre d'autres règles. Donc, je pense que ce serait très compliqué de rétablir un mode de scrutin proportionnel sans la parité. Donc, mécaniquement, ça produirait... Après, on pourrait avoir un mix, comme en Allemagne, par exemple, où on a la moitié des députés élus sur des listes au scrutin proportionnel et la moitié au scrutin uninominal sur leur nom au niveau de circonscription. Et là, je voudrais dire juste un mot sur les règles du jeu, on peut les changer, mais qui, jusqu'ici, est décisif dans la manière de tenir les règles du jeu, ce sont les partis politiques. Ils gardent ce rôle crucial de sélectionner les candidats, de les présenter dans des circonscriptions plus ou moins gagnables. Donc, il faut regarder aussi ce qui se passe du côté des partis politiques, les tenir, les contraindre. Donc, soit par effectivement leur financement, soit par le fait de ne pas pouvoir présenter de liste tout simplement, ou de ne pas pouvoir présenter d'élus s'ils n'ont pas respecté certaines conditions.
Vous l'avez dit, ce qu'il y a de très intéressant dans le rapport Oxfam, Cécile Duflot, c'est qu'il ne parle pas seulement des élections électives, il parle également de la haute administration, des entourages politiques, des ambassades même. Qu'est-ce qu'on observe là? Est-ce qu'au fond, les positions mises dans l'ombre, jetées dans l'ombre, sont encore moins paritaires que celles qui sont projetées dans la lumière?
Oui, toutes les grandes institutions, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, toutes ces grandes institutions-là n'ont jamais été présidées par des femmes. Elles sont à 100% présidées par des hommes aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, tout ça, ça tisse une sorte de toile aussi qui fait que ça pèse sur les politiques publiques d'une manière ou d'une autre.
C'est là que réside le pouvoir également.
Bien sûr, c'est là que réside le pouvoir de façon très évidente, et c'est encore pour certains d'entre eux des lieux extrêmement masculins et où les femmes ont aussi presque implicitement compris qu'elles n'auraient pas d'horizon. Donc, changer ces règles-là, ça nécessiterait finalement pas de grand changement. On pourrait très bien imaginer que, en fait, une fois que vous avez élu un président du Conseil constitutionnel homme, la fois d'après, c'est une femme. Voilà, c'est simple.
Merci beaucoup de cette discussion organisée, je le rappelle, à l'occasion des 80 ans jour pour jour, de la première fois où les Français se sont rendus aux urnes. C'était le 29 avril 1945, à l'occasion d'élections municipales demeurées dans l'histoire. Cécile Duflot, je rappelle que vous êtes directrice générale d'Oxfam France, ancienne députée, ancienne ministre. Catherine Achin, vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des questions de genre en politique. Merci à vous deux.
Merci.